Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. À l'occasion de l'ouverture mercredi dernier de la 5e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, Alexis Tambwe Mwamba, ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, a invité les magistrats à l'éveil des consciences afin de redorer l'image de la justice. Il a estimé que la justice congolaise est un instrument au service des personnes privilégiées et protégées, que sont les magistrats au détriment des autres considérés comme faibles et dont les droits sont souvent méconnus. Comment réagissez-vous face à ces constats? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en nom de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Gérald Gembo est à la coordination et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Seboujambo. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Rappelons que la clôture de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature est intervenue hier mercredi. Les travaux de cette Assemblée générale ont été clôturés bien sûr par une interpellation sur la responsabilité professionnelle de chaque magistrat et 36 résolutions plus une recommandation ont été adoptées. Rappelons aussi sur les antennes que vous avez suivi ce matin, je crois bien sûr hier, la réaction de magistrats par rapport aux propos tenus par le ministre de la Justice sur le rôle et les travaux de magistrats. Nous sommes ensemble avec vous pour cet échange d'en parole aux auditeurs autour de cette question. Comment réagissez-vous par rapport à ces constats? Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Rappelons que la ligne pour intervenir, c'est le 081 890 49 69. Nous avons plusieurs réactions aussi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, comme Abamungu Balibouza pense qu'il serait difficile de redorer l'image de la justice congolaise sans dissocier le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. La justice ne fonctionne plus selon les lois du pays, mais suivant les ordres du pouvoir. Aux uns, cette justice est plus tranchante et aux autres plus clémente. Aux magistrats également d'éviter la corruption, car c'est parmi les maux qui ruinent cette justice. Et d'ailleurs, dans la réaction des magistrats, ils ont estimé que le ministre de la Justice n'a pas d'injonction à donner aux magistrats, d'autant plus qu'il est du pouvoir exécutif et il n'est pas membre du pouvoir judiciaire. Mais au-delà de toute cette polémique, que pensez-vous de ce constat du ministre de la Justice? Maître Adrien, merci d'être avec nous. Plusieurs fois, nous avons fait le débat autour de la question de la justice, comment l'améliorer. Et que pensez-vous d'abord du fait que le ministre de la Justice puisse faire ses constats plutôt envers le magistrat, Maître Adrien?
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs. Il y a lieu de préciser d'abord certains concepts. Dire que les propos du ministre de la Justice ce sont des injonctions, moi là je demanderai à tout le monde donc de chercher la définition des injonctions. Il a émis son point de vue. Lorsque nous analysons ces propos-là ne sont pas totalement faux et ces propos-là ne sont pas non plus totalement vrais. Mais il y a lieu que chacun d'entre eux puisse d'abord se remettre en cause. Lorsque nous prenons ces propos-là, nous sommes les acteurs judiciaires. Nous voyons tout ce qui se passe dans notre justice. Les propos du ministre sont partiellement vrais parce qu'au jour d'aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre, lui-même devait d'abord commencer par se mettre en cause, parce que si au jour d'aujourd'hui, la magistrature ou la justice est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause d'eux, les hommes politiques. ce sont eux qui instrumentalisent. Hein, donc le juge, à tout bout de champ, lorsqu'il y a un procès, il y a toujours l'implication donc des politiciens. Et c'est ce qui fait à ce que le juge, le magistrat, n'ont pas les mains libres. Là, c'est de un. De deux, quelles sont les conditions que les pouvoirs en place à disposer vis-à-vis de magistrats? Parce que le magistrat fait partie d'un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Mais lorsque vous prenez le traitement, donc vous faites la comparaison entre le pouvoir législatif, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires, vous allez vous rendre compte que le pouvoir judiciaire, c'est l'enfant pauvre, l'enfant qui est totalement abandonné, non seulement sur les conditions de traitement des magistrats, mais aussi les conditions de travail de ces derniers. Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque le magistrat manque donc des bureaux capables vraiment pour travailler, et comment pouvez-vous vous attendre à un très bon service dans le compte de ce magistrat-là? Au jour d'aujourd'hui, nous avions fait même des plaidoyers. Pierrot, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil pour voir là où le tribunal de paix de Kananga siège. Et moi, je me dis même, au Moyen-Âge, on ne pouvait pas assister à une juridiction de droit écrit en train donc de siéger là où le tribunal est en train de le faire. Troisièmement, en ce qui concerne maintenant le magistrat eux-mêmes, moi je pense que les propos du ministre, ce sont des propos qui tombent à point nommé. Parce que nous pouvons bien dire qu'ils sont instrumentalisés par la politique. Mais lorsque le ministre dit il y a certaines personnes privilégiées, mais ça c'est vrai, vous n'avez qu'à passer à des cours et tribunaux pour voir comment est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la politique de deux poids, deux mesures. Lorsque quelqu'un a des moyens, et vous voyez que son traitement est privilégié. Lorsque quelqu'un n'a pas de moyens, c'est quelqu'un qui est rejeté tout simplement. Et deuxièmement, du côté magistrat, vous allez vous rendre compte que le magistrat congolais a perdu son indépendance. Nous savons très bien que le juge est indépendant, donc je ne parle pas du pouvoir judiciaire qui est indépendant des autres pouvoirs selon la Constitution, mais le juge est aussi indépendant lorsqu'il est en train de faire son travail. Mais au jour d'aujourd'hui, il suffit tout simplement qu'il y ait un petit dossier sans connotation politique, mais dans lequel le dossier, il y a sa hiérarchie, donc de plein pied. Et le juge se laisse trimballer dans la boue pour craindre donc des représailles de sa hiérarchie. Or, nous savons très bien que le juge n'a qu'une seule autorité qui est la loi. Donc, autant mieux respecter la loi pour mettre en cause les injonctions de votre hiérarchie que de piétiner la loi telle que nous le voyons. Même ici à Kananga, on piétine la loi pour craindre la hiérarchie. Donc, je pense, Pierrot, qu'au vu de propos de son Excellence, Monsieur le Ministre, je pense que c'est une véritable interpellation pour les uns et les autres au travers mes propos que j'ai donnés, que chacun se prenne vraiment en charge pour qu'on se rende compte qu'effectivement il y a un changement, parce que le changement de notre justice ne viendra ni de la communauté internationale, ni de qui que ce soit, mais c'est lorsque le juge lui-même va prendre sa propre conscience, va se rendre compte qu'il faut que je travaille pour la loi, que je travaille pour la nation, que je pense que ça sera le décollage pour notre justice.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Rappelons quand même, vous l'avez suivi sur les antennes de Radio Capi, hein, vous avez suivi le magistrat Léopold Kondaloko, qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui a estimé que le ministre de la Justice a violé le principe de la séparation des pouvoirs, parce que il ne pouvait pas communiquer. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir de communiquer ou de s'adresser au magistrat du fait qu'il est membre du pouvoir exécutif, mais au-delà de tout, il a aussi estimé que dans tout ce que le ministre a dit, tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, mais aussi la recommandation de magistrats, c'est que le gouvernement arrive à respecter ou à mettre en exécution les résolutions des états généraux de la justice de 2015. C'est là où il y avait beaucoup de choses qui ont été décidées qui pouvaient aider aussi à améliorer le travail de magistrats. Maître Adrien, parce que vous avez évoqué ces travaux, rappelons que à la clôture de ces travaux, les magistrats déplorent le fait fait qu'aujourd'hui, il se cotise pour des frais funéraires, alors que selon l'article 25 des statuts des magistrats, on prévoit les soins de santé, les soins, les frais de funérailles, mais aujourd'hui c'est difficile, le magistrat se cotise. Cela veut dire qu'il y a, c'est une question transversale, au-delà du fait que le ministre puisse appeler le magistrat à travailler avec conscience, mais il y a aussi la responsabilité du pouvoir public à mettre le magistrat dans les conditions de travail requises, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup Franck, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour maître Adrien, je vais continuer sur cette ligne qui vient de tracer. Monsieur le journaliste, vous savez que une justice qui fonctionne convenablement de manière transversale dans une nation, une justice qui agit en amont et en aval pour la bonne marche des activités étatiques, une justice qui restitue chacun des citoyens dans ses droits et devoirs dans chaque pays, est semblable à la colonne vertébrale pour le rayonnement des idéaux d'un État qui se veut responsable, respectable, démocratique et aussi souverain. Seulement chez nous, nous sommes encore loin d'atteindre cet état d'esprit, car notre justice fonctionne avec plusieurs vitesses. L'autopsie faite sur la manière de rendre la justice chez nous par le ministre et les tutelles a ses raisons d'être, car il y a des malaises que nous décrions tous depuis des décennies. Par ailleurs, on aurait souhaité que le même ministre des tutelles commence par évaluer l'état généraux de notre système judiciaire tenu depuis les dernières assises de 2015. Au lieu de ne s'attaquer qu'aux magistrats et juges en les qualifiant de tel et tel, beaucoup d'analystes sereins auraient souhaité que notre ministre des tutelles nous réponde à ce genre de questions. Qui instrumentalise notre justice? Qui la politise, qui soumet ses magistrats et ses juges à ce genre de dépravation des mœurs, quel est le traitement sérieux dont ils bénéficient et on les fait travailler dans quelles conditions? Quand on sait que chez nous, l'exécutif utilise certains magistrats et juges par rapport à certains intérêts d'un groupe au pouvoir, quand nous savons que chez nous, la justice est rendue selon les appartenances sociales, selon la logique du plus fort, notre ministre de justice ferait mieux de repenser cette même autopsie déjà au sein de l'exécutif, dont il est aussi un des membres. Parce que des exemples pour remettre en question ce qu'il venait de dire là, on en a. On peut évoquer le cas de ce qui s'est passé à Lubumbashi avec le jugement de Gatumbi. On n'est pas partisan, mais nous avons vu une des présidentes du tribunal passer sur les antennes d'une chaîne de grande renommée dévoiler dans quelles conditions on voulait la faire travailler. Et quand nous voyons ce qui se passe chez nous, il y a combien de prisonniers d'opinion politique dans nos maisons de détention? Il y a combien de situations qui se passent là-bas? Il y a eu des évasions massives dans beaucoup de prisons. Mais lui-même, en tant que ministre, n'a jamais donné aux citoyens congolais une seule explication convaincante par rapport à ce qui se passe là. Et maintenant, s'il vient seulement s'attaquer aux magistrats et juges, c'est une fuite en avant. Je crois que la gangrène est généralisée, c'est au sein de l'exécutif, au sein du pouvoir judiciaire, au sein du pouvoir législatif, et partout. Donc c'est une maladie. Les 3V dont il parle là ne concernent pas que les magistrats ou les juges. Ça concerne ceux qui nous gouvernent. Et je crois qu'on doit se dire en face des histoires pour ne pas seulement voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Donc, qu'on se la lève d'abord au sein de l'exécutif. Mm-hmm. Voilà, j'ai dit, je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous estimez que le problème aujourd'hui n'est pas seulement à mettre sur les dos de magistrats, c'est l'ensemble du système. Le veste, les voitures, les villas, c'est pas seulement accuser les magistrats, c'est au sein du pouvoir exécutif, au sein du pouvoir législatif. Alors pour vous, c'est une question du système. Et si le ministre avait vraiment une autopsie à faire par rapport à la justice, il fallait d'abord commencer cette autopsie au niveau de l'exécutif, parce que la justice, vous estimez qu'elle n'est que elle subit les conceptions, les actes politiques, et c'est de cette façon qu'il faut réfléchir d'une manière générale, plutôt pas seulement accuser les magistrats. D'ailleurs, John Odian, qui est avec nous sur la page Facebook, estime que le ministre de la justice n'a pas de leçons à donner aux magistrats, dans la mesure où si la justice est taxée de tous les maux aujourd'hui, ce n'est pas les magistrats mais plutôt la politique de ceux qui gouvernent, qui ne veulent pas donner cette indépendance à la justice, qui ne veulent pas permettre à cette justice de travailler dans les bonnes conditions. Alors, si le ministre accuse le magistrat, c'est qu'il accuse le système lui-même, parce que c'est ce système qui doit permettre aux magistrats de travailler dans les bonnes conditions. On est ici avec vous à Kinshasa, Maître Omar. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierre Lamège et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et Franck dit que c'est il faut faire une autopsie du système politique globalement, que ce soit le magistrat, l'exécutif, ça dit que dans tous les domaines, il y a des problèmes qui se posent. Tout le monde court derrière ces 3V, veste, voiture, villa. Il ne faut pas seulement porter cette responsabilité sur le magistrat.
Merci beaucoup très cher Pierrot, le coach, pour les verbes que vous m'accordez. Faisant l'intervention pertinente de Franck de Vienne, je voudrais poursuivre en disant, si la démocratie était une table, elle serait reposée, n'est-ce pas, fondée sur 3 piliers, notamment la primauté du droit sur tous les actes que le gouvernant pose, la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l'homme. Mais puisqu'on parle de la justice, je voudrais marteler sur la séparation des pouvoirs. Ce principe sacro-saint, je crois, évoqué ou inventé par Charles Montesquieu, a été initié pour faire respecter les libertés publiques et dominer la loi sur tous les actes. Et elle est, n'est-ce pas, caractérisée par un principe sacro-saint qu'on appelle l'indépendance du pouvoir judiciaire. Par rapport aux propos du ministre, je voudrais d'abord rappeler à tout le monde que le 20 janvier 2011, il y a eu, n'est-ce pas, une réforme. Depuis le 20 janvier 2011, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. La réforme a été faite en 2011. Il n'y a que le juge ou les magistrats des tribunaux et des cours qui sont indépendants vis-à-vis du ministre. Ça, il faudra le marteler. Donc, l'autorité du ministre de la Justice n'est exercée que vis-à-vis des magistrats du parquet. Et lorsqu'on parle des injonctions, moi, je ne pense pas que ce sont des injonctions parce que l'injonction ne peut être faite au procureur général par les ministres que lorsqu'on demande d'ouvrir une enquête sur un problème ou de s'informer sur un dossier. Ce sont des simples recommandations qui ont été faites d'ordre moral qui interpellent, n'est-ce pas, la conscience des magistrats qui doivent bien travailler. Mais s'il faut faire, n'est-ce pas, aujourd'hui un bilan, M. Pierrot Lamy, sur la justice, je sais qu'il y a quand même des magistrats qui travaillent bien, mais il faudra quand même dire que beaucoup de moutons noirs, des bébés galeuses ont abrité les marchés et aujourd'hui la justice n'est pas vraiment à son bon ordre au niveau du Congo. Mais qu'est-ce qu'on remarque en ces jours, comme l'a dit Franck, il y a des arrestations arbitraires, on arrête les gens même pour des fins bénins, même pour des problèmes qui n'existent pas. Il y a même des détentions illégales. La loi dit que la détention préventive ou provisoire ne peut pas dépasser un certain nombre d'années, notamment 3 ans la moyenne. Si vous allez en prison, il y a des gens qui ont fait 10 ans sans avoir été condamnés définitivement. Donc il y a des problèmes sérieux. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Ceux qui sont influents, ceux qui ont des connaissances avec des autorités, l'emportent sur ceux qui n'ont aucune connaissance. On remarque également que l'argent joue. Nous sommes des acteurs de la sphère judiciaire. Je sais de quoi je parle. Mais quelles sont les vraies causes pour lesquels on devait poser? Moi, je pense que le ministre, au lieu de se limiter à donner des leçons, il devait d'abord savoir, comme l'a dit M. Franck, quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui notre justice ne marche pas. Moi, je pense parmi ces causes, la majeure, c'est les conditions dans lesquelles travaillent ces magistrats. On dit en philosophie, il n'y a pas de vertu ni d'excellence sans les minimums de bien-être. S'il faut seulement comparer les salaires qu'ils gagnent et ce qu'ils ont comme. Je voudrais vous répondre que la corruption bat son plein dans la sphère judiciaire. Autre chose, il y a la volonté des politiques de dominer les judiciaires. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont critiqué la réforme de la conscience en 2011, lorsqu'on a détaché les pouvoirs judiciaires du pouvoir de son indépendance. On a soumis les magistrats du parquet, qui sont les acteurs clés de la justice, sous l'autorité des ministres de la justice. On sent là, au travers des réformes qu'on initie, au travers des lois qu'on vote, on veut seulement que les politiques puissent l'emporter sur les judiciaires. On sent également la léthargie du magistrat lui-même. Très cher Pierrot, l'indépendance est d'abord un état d'esprit, c'est une vertu, on est avec. On a vu la récente histoire au niveau du Kenya, où la cour qui a été nommée par le président a rejeté les élections. L'indépendance ne s'alimente pas seulement parce qu'on est bien payé ou mal payé, c'est d'abord un état d'esprit. On se rend compte que le magistrat même aussi l'étage. Et enfin, il y a l'indifférence du peuple. Nous qui sommes les destinataires ou les consommateurs de cette justice, comment réagissons-nous face à toutes ces injustices? Moi, je pense que pour que notre réelle justice puisse bien fonctionner, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, notamment bien rémunérer ces magistrats pour qu'ils soient motivés et rendre une bonne justice, laisser l'indépendance totale au monde, éviter des arrêts sur commande politique, des jugements sur commande financière, ça n'honore pas le pays. Et aussi, que les principaux consommateurs doivent s'élever. La meilleure manière de se faire respecter ou de faire respecter ses droits, c'est de les revendiquer ou savoir le réclamer. Alors si toutes les productions sont appliquées, je pense qu'à la longue, on aura quand même une meilleure justice.
Alors, maître Omar, je veux te demander de garder la ligne juste le temps de revenir parce que et là tu as essayé quand même d'aller en profondeur pour estimer que le fait que la réforme de 2011 ait permis que les magistrats du parquet soient soumis à l'autorité du ministre de la Justice, ça a été déjà une erreur. Mais pour vous, vous vous inscrivez dans la logique où c'est l'ensemble du système. Ce qui arrive, c'est parce que les systèmes politiques, s'ils ne peuvent pas permettre à ce que les magistrats travaillent dans leur indépendance, dans leur liberté, ça sera difficile. Mais il y a aussi la responsabilité des acteurs eux-mêmes qui doivent faire valoir leurs valeurs. On va revenir à vous, maître Omar, juste pour deux minutes, le temps d'écouter Jules qui est à Goma, dans la province du Nord Kivu. Jules, bonjour. Jules, vous êtes avec nous, bonjour. Il y a des petits soucis des lignes avec Jules qui est à Goma. Junior Bompongo sur la page Facebook dit ceci, il compare la loi en RDC aux toiles d'araignées où les mouches se font prendre et les hirondelles le rompent aisément. C'est Maxime corrobore fort bien les caractéristiques de la justice congolaise en général et les comportements de magistrats en particulier, et cela ne donne plus le goût congolais pour courir derrière les instances judiciaires en cas de problème. Dans un pays où la loi de la force a pris les dessus sur la force de la loi, eh bien les magistrats ne peuvent qu'agir ainsi, et les dénoncer par le ministre de la Justice, c'est encore difficile d'avoir des solutions aujourd'hui. Je crois bien Jules est avec nous de Goma. Bonjour Jules. Voilà, Jules est distrait sur sa ligne. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, moi je dis que ce que le ministre a dit est vérifiable. Nous le vivons depuis des années dans notre pays, il n'y a pas de justice. Mais ce que le ministre a manqué de dire, c'est ce que les politiques même font dans l'instrumentalisation de la justice. Et si lui-même a une grande part dans tout cela, quand on voit depuis qu'il est ministre de la Justice comment il manipule la justice, comment il instrumentalise la justice, le cas de Franck Diongo, Moïse Katumbi, tous ces gens qui arrêtent et l'envoient en prison pour des raisons d'opinion, ils sont légion. Alors, moi, je ne peux pas comprendre quand lui-même, le ministre de la Justice, va faire tourner en prison et constate que il y a des cas de citoyens qui sont en prison sans dossier, sans respect des procédures judiciaires et tout ça, mais les magistrats ne sont pas toujours interpellés, ils ne sont pas sanctionnés. Et dans cette impunité-là, c'est pas les magistrats eux-mêmes qui sont en train d'ériger ça. C'est lui, la tutelle de la justice. Et quand on voit des abus que les magistrats sont en train de faire à tous les niveaux, donc il n'y a pas de sanctions. Et voulez-vous que les magistrats se corrigent? Ils vont se corriger comment? Il y a quelqu'un qui a parlé des conditions de travail. Je ne pense pas que quand on a de mauvaises conditions de travail, on va tomber dans la corruption et dans l'injustice. Dans nos villages, la palabre se faisait sous un arbre. Nos ancêtres n'ont pas, ne sont pas tombés dans la corruption et dans les mensonges à cause de travailler sous un arbre. Moi, je pense que c'est un problème de culture, de politique, un problème de culture, de valeurs. Et c'est un problème d'homme, un problème d'antivaleurs. Moi, je pense que quand on dit que la justice élève une nation, et que ici chez nous, nous avons une justice qui est à ce niveau-là, comme l'a dit lui-même le ministre de la Justice, nous devons répondre que donc si la nation est patauge comme elle patauge, donc la justice a une grande part dans la situation que nous sommes en train de traverser, et la politique aussi. C'est pour cela que nous devions tous conjuguer des efforts pour que nous puissions arriver à un état de droit au lieu de se battre pour la mangeoire et chacun veut aller à son tour et trouver son compte là, en amendoir, au lieu de chercher à avoir un état de droit où tout le monde vivra en paix dans ce pays que Dieu nous a donné, et nous pouvons atteindre un développement aussi plus facilement quand la justice est au-dessus de tout le monde.
Merci beaucoup, merci beaucoup Félicien. Vous avez interpellé les uns et les autres le rôle de politique, mais parce que ça a été dit par Franck aussi, hein, la question des prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. On sait chaque fois comment ces débats se déroulent. Les politiques disent mais voilà, ce sont des cas particuliers, ça n'a rien à faire. On pense que ce sont les prisonniers d'opinion. Les autres disent ce ne sont pas des prisonniers d'opinion, ils sont arrêtés pour des faits. En fait, c'est tout dans cette confusion. Il va être difficile aujourd'hui de pouvoir accuser les uns et les autres si, comme vous l'avez dit Félicien, on ne peut pas réfléchir d'une manière globale dans la culture démocratique, la culture politique, la culture de la lutte contre les antivaleurs. C'est cette façon de réfléchir qui va permettre à ce que tous les secteurs de la vie, comme le disait tout à l'heure notre ami Franck. Mais est-ce que Omar, vous pouvez placer un mot par rapport à ça, vous qui avez essayé d'expliquer quand même sur le plan de la réforme de la justice, est-ce qu'on peut dire que cette réforme, vous l'avez dénoncée Omar en 2011, est-ce qu'elle elle avait l'intention de pouvoir assujettir les magistrats du parquet pour que le pouvoir exécutif, qui est politique, ait la même mise sur une partie du travail de la justice, maître Omar?
Merci beaucoup, très cher Pierrot, de la question, une fois de plus, que vous posez. Je pense derrière chaque texte, il y a une écriture et aussi un esprit. C'est ce qu'on appelle chez nous la ratio legis semper. Dans la sphère judiciaire, le ministère public ou les magistrats est un acteur clé. Il a pour mission de rechercher, d'enquêter, de constater les infractions et de conduire leurs auteurs vers les juges compétents. Voilà le rôle qu'il joue. Et lorsqu'on détache ce monsieur de l'indépendance qu'il avait, aujourd'hui avec l'injonction qui a été mise en 2011, et aujourd'hui il y a une loi qui a été votée en 2013 sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le ministre peut demander à un magistrat du parquet d'arrêter un dossier s'il estime que ça dérange l'ordre public de l'État. Donc pour moi c'est une façon pour les politiques d'avoir une main sur le fonctionnement de la justice. Donc, ce que le ministre doit faire c'est commencer par retirer cette injonction-là, car lorsque l'indépendance du pouvoir judiciaire par le père tel que John Locke ou Montesquieu, c'était dans le souci de préserver le respect de l'homme, une valeur. Autre chose, la meilleure manière de faire fonctionner la justice pour les ministres serait, comme le dit la loi sur le fonctionnement des ministères, de gérer l'administration saine de la justice. Il a l'obligation ou le devoir de gérer les prisons. Allez voir comment fonctionnent nos prisons. La prison de Maka, la prison d'Indolo est surpeuplée. Ces gens-là doivent, selon la loi de 75 sur le régime pénitentiaire, manger 3 fois par jour, avoir des soins médicaux. Mais allez voir comment vivent les prisonniers. Ce sont les vrais problèmes que doit traiter les ministres, au lieu de donner des injonctions morales aux magistrats qui n'ont rien. Par rapport au magistrat lui-même, j'ai pas de l'indépendance, il y a aussi un problème, Pierrot, qu'il faudra soulever, le problème de formation. Aujourd'hui, on sait comment fonctionnent les universités congolaises. N'importe qui peut devenir licencié en droit et avec des racolades, avec des pistons, on devient magistrat. Il y a des magistrats qui arrêtent des gens pour des dettes. Or, la dette n'est pas une infraction. Il y a même des magistrats et des OPG qui arrêtent des gens parce qu'il a rendu une fille majeure enceinte. Or, la grossesse d'une fille majeure n'est pas une infraction. Mais il y a aussi un problème de formation sérieuse qu'on doit tenir compte. Il y a des gens qui sont arrêtés arbitrairement. Non pas parce que les magistrats sont de mauvaise foi, parce qu'ils ne connaissent rien. Et enfin, je voudrais aussi dire, l'indépendance réelle passerait par la vraie indépendance du pouvoir judiciaire, même le magistrat du parquet, mais aussi par l'indépendance spirituelle du magistrat lui-même, comme l'a fait le ministre.
Merci.
Et tout se résume aussi par le peuple qui doit s'élever et faire respecter ses droits. Merci très cher Pierrot, le coach du Verbe qui vous m'avez budget.
Merci beaucoup Omar, merci pour toutes ces précisions. 081-890-49-69 pour intervenir en direct. 09-96-06-49-69 pour intervenir en direct.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous avons Pacifique qui est à Lubumbashi. Pacifique, il y a notre ami Antoine Lutundu là sur la page Facebook qui estime que ça c'est, il appelle ça du théâtre pour lui. Le fait que le ministre puisse qualifier la justice congolaise comme un instrument au service des individus. Pour lui estime aussi que ça soit lui-même, le ministre, l'ensemble de la classe politique, leur manière de se comporter ne peut pas permettre aujourd'hui à la justice de pouvoir fonctionner d'une manière indépendante, pacifique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, également à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. D'entrée de jeu, je dirais Pierrot que la force d'une loi réside dans son caractère impersonnel. Et personne, en principe, ne devait être au-dessus de la loi. Contrairement à ce que nous voyons ici chez nous en République démocratique du Congo, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Et là, notre constitution est violée. Et cette constitution a été violée depuis sa promulgation le 18 février 2006. Et c'est là les nœuds du problème. Le caractère impersonnel de la loi a disparu. Aujourd'hui, le ministre peut donner des injonctions aux magistrats comme il le veut. Je voudrais poser une question au Pierrot. Est-ce que le ministre Tambwe Mwamba a déjà été une fois magistrat? Parce qu'il revient toujours comme ministre. Il a déjà été magistrat et travaille dans des conditions comme les magistrats travaillent aujourd'hui où ils reçoivent des injonctions comme la pluie tombe. Le chef de l'État lui-même, il avait dit solennellement qu'un magistrat touchait 1 600 $. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est déjà régularisé ou pas? C'est une question qu'il faut poser au magistrat et poser au même ministre. Les magistrats reçoivent des injonctions à tout moment, sur n'importe quel fait. Les arrestations arbitraires. Je prends d'abord les arrestations pour les membres de l'UDPS à Lubumbashi. Mais je vous assure que c'était arbitraire. Les gens qui sont dans leurs propres bâtiments en train de prendre des mesures, des stratégies pour accueillir leur président, on vient les arrêter. Et il faut voir comment est-ce qu'on les a libérés. Les procureurs généraux, les procureurs de la République, ils ont peiné, ils ont eu des difficultés. Pourquoi? Parce que des injonctions venaient par-ci, par-là. Pierrot, allez-vous comprendre tout cela? Les magistrats aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Nous avons des bons magistrats. Mais regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils travaillent dans des très très mauvaises conditions. Et le ministre Tambwe, il le sait très bien. Quand il parle de 3V, veste, villa, véhicule, c'est là qu'il fallait lui poser la question. Est-ce que lui a déjà été magistrat une fois ou pas? Si nous prenons les dossiers de Katumbi, les dossiers vides, mais on a instrumentalisé tout ça. Et moi, je m'en souviens même, le ministre Mwamba dit, j'ai instruit. Il a instruit à qui? Parce que les cours des tribunaux devaient être aussi indépendants. Vous voyez, Pierrot? Et je poserai une question au ministre lui-même. Depuis qu'il est passé plusieurs fois ministre de justice, quelles sont ses innovations? Le peuple congolais a besoin des innovations que le ministre Tambwe a amenées dans l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Comme ça, nous allons accepter. Comme ça, nous allons dire c'est vrai. Madame Ramazani a fui. Vous connaissez dans des conditions. Elle dit, mais je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça. À tout moment. Donc, la justice congolaise est infiordée par la politique. Et voilà. Comment voulez-vous qu'on rende correctement la justice?
Et c'est très difficile.
Nous avons également des faux magistrats. Les faux magistrats qui sont là à la recherche des droits faits. Là, le ministre a touché, c'est vrai. Il y en a également de ces magistrats-là qui cherchent des vestes de villas et des véhicules. Ils savent que l'étranger qui est ici n'a pas raison. Mais on lui donne raison parce qu'on a besoin de villas. On lui donne raison parce qu'on a besoin de véhicules. On lui a promis les véhicules. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la constitution est déjà violée. Oui,
merci.
On pouvait même arrêter certains magistrats. Moi, je m'en souviens, à l'époque de frère Laurent Désiré Kabila, on avait limogé des magistrats. Je peux vous en citer même les noms. Monsieur Gokos n'est pas là. Ngoï Moukena, hein, il n'est pas là. On les avait radiés dans la magistrature. Voilà ce qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se fait comme ça?
Voilà, merci. Pas. Merci beaucoup.
On arrête déjà pour faire Bénin pour qu'ils donnent des cautions pour la liberté provisoire. Vous voyez, Pierrot?
Merci beaucoup Pacifique. Vous estimez qu'il en va d'abord de la responsabilité du ministre de la Justice. Vous l'avez aussi interpellé, hein, je peux utiliser les termes dans cette émission, où vous estimez qu'il y a d'abord des innovations proposées par le ministère de la Justice avant de pouvoir condamner le magistrat, le mettre dans les conditions de travail. Mais surtout cette question qui revient sur l'inféodation, la conception même de l'inféodation de la justice par les politiques, il faut que cette question soit résolu. Franck le disait d'ailleurs, la question des 3V, c'est pas seulement à accuser le magistrat, c'est dans l'ensemble du système, que ce soit dans l'exécutif, les judiciaires et les législatifs, tout le monde court derrière les 3V, les vestes, les villas, les véhicules. C'est une question globale, mais vous avez estimé que la responsabilité du ministre devrait d'abord être dans la mesure, comme le magistrat et le même ont dit, dans cette question de la mise en application de résolution des états généraux de la justice. C'est 2015 sur les conditions de travail de magistrats. Le ministre, il aurait bien fait de se pencher sur cette question-là avant de pouvoir le condamner. C'est ce que les magistrats ont dit. Merci beaucoup, Pacifique, pour toutes ces précisions de Lubumbashi. Madame Hermine, vous nous appelez de Gbagdolité. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour aux auditeurs de la radio DAP.
On vous écoute.
En fait, je voudrais structurer mon propos en trois points. Le premier point, je vais parler du diagnostic posé par le ministre. En fait, c'est pas une première fois que nous assistons à des discours politiciens. Nous savons. Mais moi, je pense qu'après avoir diagnostiqué le problème, il faut poser un traitement. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce que le ministre est préconise après son diagnostic? Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des discours politiciens et ne faire aucun suivi, ni déposer aucun acte concret pour pallier au diagnostic posé. Je vais aborder mon deuxième point pour parler des conditions ainsi que des traitements des acteurs de la justice. Au fait, Pierrot, il faut être au fond du Congo pour parler de la réalité dans laquelle les acteurs de justice travaillent. Moi, je me dis, vous arrivez quelque part où vous n'avez même pas un cadre décent pour le travail. Vous n'avez pas même le frais de fonctionnement pour ne serait-ce que des papiers pour poser tout ce qu'il y a comme acte administratif. Comment pouvez-vous vous attendre à un bon rendement quand une personne est mise dans de telles conditions? Et parlons aussi du traitement. Aujourd'hui, avec tout ça comme dévaluation, mais les conditions de vie sont devenues intenables après la maudite prime que reçoivent les magistrats. Moi, je pense que ce sont là les réels problèmes auxquels le ministre devait réfléchir et proposer des solutions. Je vais aborder mon troisième point par rapport à l'interférence des politiques dans l'appareil judiciaire. Vous savez, Monsieur Pierrot, combien les procureurs, combien les magistrats ont perdu leur poste, ont été mutés, ou bien sont bons parce qu'il y a interférence des politiques dans tel dossier. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il revient là au ministre de guérir, de comprendre qu'il y a vraiment des pouvoirs avec des pouvoirs et qu'on devait laisser main libre à l'appareil judiciaire de travailler comme il se doit. Et que les politiques devaient s'abstenir d'interférer dans l'appareil judiciaire. Je pense aussi qu'il y a aussi un autre problème au niveau même du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que, parlons de ces magistrats qui sont derrière le 3V, il faut quand même qu'il y ait des actions coercitives, concrètes vis-à-vis d'eux, qu'ils soient vraiment transmis dans des hautes instances judiciaires afin qu'ils puissent payer de leur répondre de leurs actes, parce qu'ils sont en train de ternir l'image de l'appareil judiciaire, je dis. Merci
beaucoup, madame, parce que vous avez d'ailleurs évoqué cette question des conditions de travail. Des fois, on confond quand on est à Kinshasa. Vous l'avez dit, il faut aller au Congo profond et voir dans quelles conditions les magistrats sont en train de travailler. Ça, c'est une réalité. Et le ministre aurait mieux fait de penser à se concentrer, se consacrer même d'ailleurs sur cette question des conditions de travail. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a de magistrats qui sont derrière les 3V, vous n'avez qu'à pouvoir les interpréter pour les punir. Et dès que le diagnostic est posé, le ministère aurait fait de prendre des mesures concrètes pour pouvoir améliorer. Merci beaucoup, madame. On retourne aussi à Kinshasa avec vous, ingénieur Valérie. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Ok, merci bien. Je pars de deux prémices. La première, c'est l'information du ministre lui-même. Et la deuxième, c'est la révélation que notre ami Maître Omar, que je salue en passant, qui vient de me révéler que depuis 2011, il y a eu une réforme qui a conféré l'autorité du ministère sur
les parquets. Le magistrat du parquet, oui.
Oui. En tout cas, pardon Pierrot, je commence par le ministre. Qui est le ministre Sambo Mamba? Ce n'est pas un politicien d'avant-hier, non. C'est quelqu'un qui a commencé la politique depuis très longtemps. Il connaît l'histoire du pays. C'est quelqu'un qui a commencé la politique, qui est passé par Makanda Kabobi. De Makanda Kabobi jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'il est la personne la mieux placée pour nous aider à réformer cette justice. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de se plaindre là où il a le bâton de commandement, là où il a le marteau comme un président de l'Assemblée à taper sur la table et dire silence dans la salle et tout le monde se tait. Dès lors que lui se plaint, à qui devons-nous encore compter pour que nous puissions remettre un peu l'appareil en marche? Et quand on doit nous apprendre, moi personnellement, c'est aujourd'hui que je viens d'être informé par Maître Omar qu'il y a eu cette réforme que je n'encourage pas. Mais c'est une réforme qui a monté un coup à la Constitution. Parce que la Constitution reconnaît que nous avons au niveau national quatre institutions. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Mais dès lors qu'on va faire une telle réforme, 5 ans après avoir élaboré, voté la Constitution au référendum par le peuple. Mais finalement, donc, il y a eu un groupe de gens qui ont pris une ascendance sur la volonté du peuple. Je crois que c'est une réforme qu'on doit annuler. Il y a bien d'éléments qui nous montrent que la justice est en panne. Ça ne se démontre même pas. Un exemple. Il a été dit, le rapport au niveau international, que nous sommes parmi les 20 premiers pays les plus corrompus du monde. Mais cette information devrait d'abord gêner qui? Ça devrait d'abord gêner le ministre de la Justice. Depuis que cette information est arrivée, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Le professeur Louzo Lobambilesa a bien fait deux rapports. L'un en 2015, l'autre en 2017. Celui de 2015 a bien démontré que nous perdons chaque année plus de 16 milliards. Plus de 16 milliards de dollars. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne. Le parquet sur lequel le ministre a une ascendance n'a jamais initié des poursuites. En 2017, le même professeur a fait encore un rapport pour démontrer qu'il y a une forte évasion fiscale au niveau des régies financières. On ne fait rien. Mais alors, dès lors que la justice est en panne, telle que le ministre le reconnaît, alors il faut donner raison à l'opposition. Quand l'opposition dit qu'on ne peut pas aller à l'élection dans ces conditions, sur quelle justice devons-nous compter pour qu'on puisse rendre vrais les résultats? Alors, dans ces conditions, lorsqu'il y a, par exemple, le massacre dans les Kassai, à Goma, au Kivu, à Ituri, sur quelle justice pouvons-nous compter? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas nous montrer qui sont les vrais auteurs des massacres de Kassai, qui sont les vrais auteurs à gauche, à droite. Mais alors, vous comprenez que, le droit, c'est une discipline qui est là, entre autres, pour sauvegarder l'organisation sociale. Lorsqu'une société s'est déjà organisée, après son organisation...
Gardez l'écoute, votre correspondant.
Des petits soucis des lignes avec ingénieur Valérie qui estimait que si le ministre s'est plaint sur le magistrat, du comportement des magistrats, ça va être compliqué pour la population. Où ira-t-elle aujourd'hui? Et pour lui, il estime que même cette réforme évoquée par Maître Omar de 2011, il ne peut pas la soutenir. Et tout ça, ça doit être pris dans la globalité. Et l'expérience du ministre de la Justice sur le plan politique pouvait aider exactement à avoir des réformes qui pouvait permettre à la justice congolaise d'être un modèle exemplaire. Quand il y a des rapports sur des détournements et tout ça, ça devait conduire à des poursuites et à la clarification de la situation et créer la confiance entre les uns et les autres. Mais dommage qu'on a perdu l'ingénieur Valérie alors qu'il intervenait. Nous restons ici à Kinshasa avec Adrien. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Adrien, bonjour.
Bonjour Pierre Lamengi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à tous mes prédécesseurs.
On vous écoute Adrien.
Merci beaucoup, nous avons suivi le ministre et nous félicitons son discours parce qu'il a relevé vraiment des mots qui restent dans la tête de tout peuple congolais. Il a dit tout simplement très haut tout ce que tout le monde était en train de penser aussi tout bas. Mais à notre niveau, nous pensons que ça, c'est un grand défi que le ministre vient à peine de lancer au Conseil supérieur de la magistrature, dont en tête nous voyons la Cour constitutionnelle, le premier président. Je félicite déjà mes prédécesseurs qui ont soulevé le fait que le pouvoir politique est en train d'entraver le pouvoir judiciaire. Pourtant, la Constitution a prôné cette séparation de pouvoir. Et d'ailleurs, un dicton dit que la justice élève une nation. Nous estimons que tout ce que notre pays est en train de vivre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le pouvoir judiciaire n'a pas encore compris son rôle. Nous prenons toujours le fait que le président de la République tire sa légitimité en la Cour constitutionnelle, parce que la Constitution dit que le président de la République prête serment. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui confère au président de la République le titre. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle est à une autorité sur le pouvoir exécutif. Mais dommage, le pouvoir exécutif continue toujours à marginaliser les magistrats. Nous avons suivi même la réaction des magistrats qui ont continué à se plaindre. Alors, notre observation, il y a eu Maître Omar, complété par ingénieur Valérie, qui a soulevé le fait aussi des injonctions. Et ce système aussi, nous l'avons dénoncé, ça met en ambiguïté la nature juridique du parquet, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus placer le parquet au niveau du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, parce que d'une part, le ministre a des injonctions d'ordonner, tout comme de cesser les poursuites à l'égard des individus. De l'autre part, le parquet doit être une composante du tribunal. Alors, ça crée une ambiguïté. Et cela a été créé vraiment à dessein pour que le pouvoir exécutif puisse avoir le contrôle sur le pouvoir judiciaire. Alors, le ministre vient à peine de contredire, parce que nous avons toujours démontré ici qu'au Congo, la justice ne marche pas très bien, mais le ministre de l'Information et de Communication a toujours dit que nous devons faire confiance à la justice congolaise, parce que les magistrats congolais ne sont pas des petits messieurs. Nous allons rappeler ici, lors des massacres des Kasaï, il y a eu des associations de société civile qui ont haussé le ton à ce qu'il y ait une commission d'enquête internationale indépendante. Mais nous avons suivi le gouvernement par le biais de son porte-parole dire que la justice congolaise, elle est compétente. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le ministre des tutelles vient à peine de montrer que la justice ne marche même pas. Donc, toute démarche à pouvoir crédibiliser le pouvoir judiciaire au Congo n'est qu'une posture. Et aussi, le jour que les magistrats vont comprendre qu'ils sont effectivement les vecteurs du développement de notre pays, moi je pense que la situation va changer. Donc aujourd'hui, il est vrai que le ministre vient de lancer un grand défi aux magistrats. Et au lieu que les magistrats puissent être frustrés, moi je pense que c'est le temps qu'ils puissent se réveiller et se dire « voilà, nous devons prendre les choses en main ». Parce que même la Cour constitutionnelle vient d'être bafouée par la CNI. Lors de l'arrêt Casemiro ne veut pas revenir, la Cour constitutionnelle a donné un arrêt qui est inapplicable et susceptible d'aucun recours, mais nous avons vu tous ces arrêts bafoués au pied et on n'a pas vu un seul discours de la Cour constitutionnelle contestant ce comportement. Et nous sommes en train de voir que le même ministre de la Justice est en train de vouloir réduire le nombre de la composition au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui peut avoir des répercussions très graves dans le fonctionnement de cette juridiction. Mais aujourd'hui, cette juridiction, je pense qu'il est temps que ces hauts magistrats puissent revenir à la charge et réduire encore leur honneur.
Rappelons que la loi qui a été refusée, attaquée par le député Toussaint Alonga Adrian, c'était cette loi qui prévoyait qu'on puisse réduire le nombre de quorum hein, par rapport à la Cour constitutionnelle, des magistrats, des juges qui devaient siéger en principe au niveau de la Cour constitutionnelle. Il fallait réduire le nombre par rapport au quorum. On a eu d'ailleurs deux débats dans Parole aux auditeurs avec le député Toussaint Alonga qui avait attaqué cette proposition de loi. Merci beaucoup Adrien. Vous estimez que le fait que le ministre de la Justice pointe du doigt les magistrats, c'est qu'il donne raison à ceux qui ont toujours critiqué la justice. Et là, il entre en contradiction avec le porte-parole du gouvernement qui a toujours donné des garanties qu'il faut que la population congolaise puisse faire confiance à la justice. Mais d'un côté, pour vous, cette interpellation, c'est aussi un défi lancé aux magistrats qui devaient en principe dire, voilà, à partir de ces niveaux, ils doivent revenir dans leur conscience pour pouvoir jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans la société. Merci beaucoup. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Quant à la thématique, Monsieur Pierrot, moi je dirais que ce n'est même pas un défi que le ministre vient de lancer. Pour lancer un défi, il faut mettre le magistrat dans de bonnes conditions. Le ministre connaît les conditions macabres dans lesquelles évoluent nos magistrats. Si vous passez au niveau du parquet de grande instance de Lubumbashi, six magistrats dans un petit local et dans ces conditions-là, et puis le chef de l'État, dans un de ses discours, avait dit que le magistrat le moins gradé toucherait 1 300 $. Mais ça n'a jamais été fait. On est en train d'appauvrir les magistrats pour les amener à la corruption. Et au-delà de ça, nous avons vécu ici à Lubumbashi, lui-même, le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice, lorsqu'il y a des dossiers politiques que la justice doit instruire, lui-même, il précède avant même le jour de l'audience pour donner des instructions. Il a une très grande part de responsabilité dans les actes qui sont posés par les magistrats. Et d'ailleurs, ici, au niveau du parquet de grande instance, soit parquet général, il y a des magistrats qui sont choisis pour des dossiers politiques. Et quand on vous amène devant ce magistrat, vous êtes conscient qu'en tout cas, je suis arrêté. Ce sont des instructions qui viennent d'en haut. Lui, le ministre de Justice. Maintenant, ici au Katanga, nous avons un gouverneur constitutionnel et un gouverneur du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministre de Justice a fait pour mettre un terme à cela, puisque l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été passé outre par le ministère de l'Intérieur? Et là, il va condamner encore les magistrats? Moi, j'estime que non. Quelqu'un d'entre nous a évoqué le problème de madame la juge là. Elle a tout dénoncé. Elle a été contrainte à prendre son exil. Vous comprenez un peu? Ici, au niveau de Lubumbashi, même avant que un dossier n'arrive au niveau du parquet, ça passe par la police. Mais dans quelles conditions les policiers vivent? Puisque tout ça, c'est la justice. Même pas une rame de papier qui est offerte par notre justice aux magistrats. Même pas des billes. Les magistrats doivent chercher lui-même un bus, et il doit chercher lui-même les rames de papier, il doit chercher les bics. Lui, ministre des Transports, le ministre de Justice, lui croit que le magistrat doit puiser l'argent où?
Voilà, merci Maître Sonville, parce qu'il y a, nous n'avons que 2 minutes à accorder aussi à Madame Joséphine. Vous avez évoqué les conditions dans lesquelles le magistrat travaille, mais aussi les rôles du ministère, les rôles de politique dans le fonctionnement de cette justice. Il y a notre ami Émile sur la page Facebook qui dit même que il ne faudrait pas se disculper aujourd'hui dans les propos. Tous les citoyens congolais connaissent que c'est pas les pauvres qui vont aller corrompre les magistrats. Si le ministre dit qu'il y a le magistrat travaille pour soutenir les gens, c'est qu'on soutient, c'est pas ceux qui ont de moyens, ce sont ceux qui ont de moyens qu'on soutient, et les faibles n'ont pas la possibilité d'aller corrompre. Alors on vous écoute, Madame Joséphine, pour terminer cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Pierrot, de m'avoir passé la parole. Je salue tout le monde. Moi, je veux dire ceci, que le ministre qui était chargé de la justice et garde tout, qui laisse les magistrats tranquilles. Il les laisse tranquilles. Le ministre est là. Nous, on a grandi, le nom de Tambwe Mwamba, depuis que moi j'ai grandi, il est toujours là. Vous savez, le problème, c'est quoi? Quand il y a des tricheries massives au niveau de l'État, quand il y a des élections là où on triche devant nos enfants, nos petits-enfants, lui, le ministre, croit que ça sera seulement pour eux, la tricherie, c'est seulement pour eux, les gens qui sont privilégiés. Non, la tricherie est allée même à la cité. La tricherie touche tout le monde. Ça touche même son petit-petit-fils, le 4e génération, le niveau de la tricherie qu'il y a au Congo. Le ministre doit laisser les magistrats tranquilles et lui doit s'occuper de son pouvoir politique qu'on lui a donné. Il doit corriger. Dans un pays là où on va d'abord, les enseignants qui doivent enseigner les magistrats, qui doivent sortir les magistrats là, ne sont pas payés. Ils s'attendent à quoi?
Autant de questions, Madame Joséphine. Dommage qu'on va arrêter par là, mais vous avez estimé que le ministre devait laisser les magistrats travailler et lui s'occuper de son pouvoir politique. Mais quand il y a des cas de corruption, de tricherie, même dans, par exemple, dans les élections, aussi au vu de tout le monde, c'est qui veut dire que ça va se transmettre de génération en génération jusqu'à la 4e génération selon vos propos. Merci beaucoup aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Vous avez estimé qu'il revient au ministre de pouvoir travailler pour améliorer les conditions de travail de magistrats. Il revient aux magistrats de pouvoir prendre conscience pour faire leur travail, mais chacun placé devant ses responsabilités selon vos propos et points de vue. Merci à tous. Nous disons merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation, Gilles Lungembo à la coordination de ce magazine, qui est Pierrot et la Meiji vous a présenté sous la supervision de Martin Sebou-Jangue. On retrouve cette émission sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.